France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission de géographie et des enjeux globaux de France Culture. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble et en direct de 16h à 17h et je vous propose de commencer par un son qui nous vient du Brésil.
Aujourd'hui, nous visitons tout le Brésil pour essayer de faire prendre conscience à la population de l'importance de lutter contre le moustique. Madame, avez-vous des pots de plantes, de l'eau qui s'accumule quelque part ?
Seulement le réfrigérateur.
Ah, faites très attention à bien nettoyer le tiroir du bas, enlever l'eau. Madame, vous savez comme ces gestes sont importants, comme nous sommes tous préoccupés par ce moustique. Je vous laisse des brochures d'information, si vous pouvez les distribuer aussi aux voisins, aux amis. Expliquez l'importance de ce combat, pas seulement pour moi, pour vous, mais pour tout le Brésil.
Entendu, merci, vous pouvez m'en laisser, je vais en parler.
Reportage pris sur le vif et diffusé le 15 février dernier sur France Inter de la campagne nationale contre le virus Zika au Brésil. On entendait ce sergent de la marine, Juliana, donnant des conseils à une habitante de Rio. Transmis via le moustique, comme le chikungunya, le virus Zika provoque des symptômes de type grippal et des éruptions cutanées. Il n'existe pas de traitement curatif ni de vaccin contre cette maladie. Chez les femmes enceintes, on le sait maintenant, il peut se transmettre au fœtus, causant des malformations. L'Amérique latine est très touchée puisque déjà 1,5 million de cas sont comptés au Brésil. Alors Zika, dont le nom vient d'une forêt d'Ouganda, où il fut repéré pour la première fois, est pourtant connu depuis 1947. Est-il justifié de s'en alarmer comme le fait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé ? La question s'est posée déjà pour Ebola, maladie mortelle, dont on a pu craindre qu'elle ne se répande à très grande échelle, ce qui, fort heureusement, n'a pas été le cas. Mais plus généralement, face à l'émergence, même circonscrite, de nouvelles maladies infectieuses, face à la persistance de maladies bien connues comme le palu, face enfin à la résistance aux antibiotiques de maladies qu'on croyait éradiquées comme la tuberculose, la santé mondiale va-t-elle reculer dans le monde ? Alors, les nouveaux virus émergents et les virus tout court sont-ils de façon renouvelée un danger pour la santé mondiale ? C'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Élément de réponse dans cette émission que j'anime en sortant de la grippe, et oui, le hasard fait drôlement les choses, avec le professeur Éric Combe. Bonjour Éric Combe.
Bonjour.
Vous êtes membre du Haut Conseil de la Santé publique, spécialiste des maladies tropicales, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à PHP dans le 13e arrondissement de Paris. On vous présente récemment comme le meilleur spécialiste français de Zika. Je vois que vous faites une petite moue modeste.
C'est injuste.
C'est injuste, sans doute.
Par rapport à d'autres.
Pour vos collègues et vos confrères que vous connaissez bien. En tous les cas, je suis très heureux que vous soyez là et pour nous en parler ainsi qu'à nos auditeurs. Et puis, vous êtes là donc avec Samuel Alizon. Bonjour Samuel Alizon.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis France Bleu Hérault, donc vous êtes à Montpellier. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste de l'évolution et de l'écologie des maladies infectieuses. Vous venez de publier, c'est grave, Docteur Darwin, l'évolution, les microbes et nous, qui vient de paraître au seuil. Donc merci à vous d'être avec nous en duplex depuis Montpellier. Donc si vous le voulez bien, l'un et l'autre, hein, pour parler comme ça de façon un peu globale de ces questions des maladies infectieuses émergentes. Je vous propose qu'on parte bien sûr des questions soulevées par Zika ou de quelques-unes des questions soulevées par Zika. Bon, d'abord, est-ce que Zika est représentatif de ce qu'on appelle les maladies émergentes ? Éric Combe.
Oui, c'est incontestablement une maladie émergente, même si elle a émergé en 1957. Donc ça donne tout le poids à ce qu'on appelle au concept d'émergence. Mais en tout cas, clairement, dans le continent américain, elle est émergente.
Mais alors émergente, ça veut dire quoi précisément? Est-ce que c'est lié au fait qu'à un moment donné, tout d'un coup, il y a une maladie qui, comment dire, touche beaucoup plus de gens qu'elle n'en touchait un an auparavant? Ou est-ce que c'est plutôt une question géographique au sens où elle s'étend hors de sa zone de départ?
Il y a plusieurs types d'émergence. Ça peut être l'émergence d'un agent pathogène nouveau. Ça peut être l'émergence d'un agent pathogène dévié d'autres agents pathogènes. Par exemple, la grippe aviaire par rapport à la grippe humaine. Ça peut être l'apparition d'une modification de la sensibilité aux antibiotiques, par exemple, de bactéries très très anciennes. Vous avez cité la tuberculose. Voilà un très bon exemple d'une maladie qui autrefois se traitait très bien et qui, de jour en jour, se traite de plus en plus mal du fait de l'émergence des résistances.
Et pour vous, Samuel Alizon, est-ce que cette notion d'émergence, dont j'ai l'impression que finalement elle est assez commode car très très large, est-ce que pour vous elle a une signification particulière ?
Oui, dans le sens où l'émergence, donc comme l'a dit Eric Combe, il y a les deux critères qui sont géographiques, c'est un agent qu'on ne voyait pas à un endroit qui apparaît, et le critère biologique, qui est ça peut être un nouvel agent. Et ça a une importance dans le sens où, c'est ce qu'on voit sur Zika en ce moment, comme cet agent est nouveau, assez souvent les populations sont pas préparées, pas immunisées, et donc ça peut avoir des conséquences plus importantes que les maladies non émergentes, on parle d'endémiques, généralement auxquelles les populations sont plus habituées.
C'est quoi la différence entre endémie et pandémie ?
Formellement, une pandémie, c'est une épidémie qui se répand sur plusieurs continents.
D'accord.
Donc, une endémie, c'est un stade, en fait, où une maladie a atteint un peu un état d'équilibre, où, voilà, elle est présente, elle apparaît, elle réapparaît, mais elle est stabilisée, en quelque sorte, sur un lieu géographique.
Eric Combe.
Pour rebondir sur le Zika, par exemple, et son côté émergent ou pas émergent, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est émergent en Amérique latine, mais si on se réfère à tout ce qui s'est passé depuis 1947, bon, disons 1957, quand le virus a commencé à circuler de manière intense en Afrique, et puis probablement en Asie, puis en Océanie, avant d'arriver en Amérique latine, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 1957. Donc, il y a eu des publications, même si elles n'étaient pas très nombreuses. Donc, voilà, c'est émergent en Amérique latine, mais en fait, c'est un virus qu'on connaissait, même si là, par le nombre, on découvre des choses dont on ne s'était pas aperçu auparavant. Mais par exemple, si vous prenez le côté des microcéphalies, c'est assez intéressant. Les Brésiliens se sont rendus compte qu'il y avait des microcéphalies chez les femmes enceintes qui contractaient le Zika, et à ce moment-là, les collègues de Polynésie française... chez les bébés. Et à ce moment-là, l'équipe de Polynésie française, où il y avait une épidémie de Zika 2 ans auparavant...
50 000 personnes touchées.
Hein. Voilà, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que nous, on n'en aurait pas? Et ils ont étudié rétrospectivement, et puis ils se sont dit, ah bah oui, tiens, finalement, nous aussi, on en avait. Donc vous voyez, on aurait pu le savoir avant.
Bien sûr. Mais alors, toujours pour en rester sur ce cas à la fois très actuel et très intéressant des questions soulevées par Zika, comment est-ce qu'on explique cette trajectoire à la fois spatiale et temporelle ? Ça, peut-être à tort, hein, moi je ne suis pas du tout ni médecin ni biologiste, mais ça me fait penser, par association d'idées, à Ebola, qui existait, qui était répertorié en Afrique centrale dans les années 70, puis qui là, tout d'un coup, a pris en Afrique de l'Ouest très récemment une ampleur beaucoup plus grande. Et peut-être que c'est pas du tout comparable, hein, d'un point de vue biologique et médical, mais on a dans les deux cas, dans les années 2010, le sentiment comme ça qu'une maladie connue, pas trop importante, tout d'un coup a une trajectoire géographique qui affole un peu l'opinion publique. Vous nous direz si c'est à tort ou à raison. Et puis également une trajectoire démographique, si j'ose dire, c'est-à-dire que le nombre de cas devient tout d'un coup plus important. Alors déjà, est-ce que cette comparaison vous paraît éclairante ou pertinente? Et puis, comment on peut expliquer, encore une fois, ces trajectoires à la fois spatiales et temporelles? Samuel Alizon.
Je pense qu'il faut vraiment prendre extrêmement de précautions en comparant Ebola et Zika, parce qu'au niveau, enfin, si on, rien qu'en comptant le nombre de victimes, Ebola c'est plus de 10 000 victimes.
Bien sûr.
L'épidémie qui a eu lieu, alors que Zika à ce jour on en compte une dizaine peut-être, mais c'est vraiment pas comparable au niveau santé publique.
Évidemment.
Après, au niveau de l'émergence, effectivement, il y a des conditions qui sont, comme l'a rappelé Ricom, c'est des agents qu'on connaissait. Ebola est aussi connu depuis assez longtemps. Mais il se trouve que certains facteurs ont coïncidé pour conduire à ces épidémies qu'on a observées. Par exemple, sur Ebola, on pense qu'une des raisons pour lesquelles l'épidémie a été si grande, c'est parce qu'elle s'est déclarée dans une des régions du monde où il y a le moins de docteurs par habitant, dans une des régions ravagées par la guerre civile. Et en lien avec ça, une région où les habitants avaient une méfiance naturelle vis-à-vis des autorités, ce qui a contribué à faire exploser l'épidémie. Parce qu'évidemment, quand personne ne suit les recommandations de santé, ça n'aide pas à contrôler l'épidémie. Donc il y a vraiment des facteurs socio-économiques qui amplifient ces épidémies qu'on connaissait auparavant.
Éric, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Les deux épidémies ne sont pas comparables et les deux maladies ne sont pas comparables. Elles se transmettent pas du tout de la même manière, elles ont pas du tout la même gravité. Comme ça a été rappelé, Ebola, la mortalité est de 50%, Zika et la mortalité est peut-être de 0,00, je ne sais pas combien de pourcents. Donc les maladies ne sont pas comparables. Zika, en fait, on vit avec Zika dans le monde, enfin en tout cas en Afrique, en Asie, en Océanie, depuis déjà 30, 40, 50 ans. Et en fait, comme la maladie est asymptomatique dans 80% des cas, ça a évolué à bas bruit et personne ne s'y intéressait vraiment jusqu'à ce que ça soit apparu en Polynésie française, enfin en Polynésie aux îles de Yap d'abord, puis ensuite en Polynésie française où il y a eu de grosses épidémies. Ebola, et puis après c'est passé en Amérique latine. Donc c'est une maladie qui existait, qui circulait. On ne s'apercevait pas qu'elle circulait, et quand elle arrivait en Amérique latine dans une population qui n'était pas immune, pas préparée, effectivement là, ça a été explosif au niveau du nombre de cas, et même si on a une complication, disons 1 pour 10 000, si vous avez 2 millions ou 3 millions de cas, forcément vous allez avoir 2 ou 3 complications, par exemple neurologiques, qui sont un fait, mais la grippe aussi donne des problèmes de Guillain-Barré, pour faire allusion à ça. Par contre, Ebola, c'est complètement différent. Ebola, c'était en Afrique centrale, on en a plus entendu parler pendant 10-15 ans, et puis ça réémerge en Afrique de l'Ouest. Voilà, pour les raisons qui ont été rappelées et qui sont tout à fait exactes par notre collègue de Montpellier.
Et s'agissant de Zika, comment peut-on rendre compte de cette trajectoire géographique de la Polynésie jusque l'Amérique du Sud aujourd'hui ?
Le voyageur.
Le voyageur.
Tout simplement.
Est-ce qu'on peut dire donc tourisme et mondialisation sont des facteurs à la fois relativement récents et tout à fait importants de circulation et de diffusion des virus ?
Absolument, c'est comme ça que ça passe. Mais je pense que mon collègue connaît très bien ça.
Samuel Alizon ?
Oui, tout à fait. Enfin, sur Zika, en fait, c'est assez intéressant parce que si on suit les épidémies qui ont eu lieu, Polynésie, Micronésie, on voit à la limite vraiment le virus traverser l'océan Pacifique. Donc là, la souche qui cause... parce qu'il y a deux sortes de virus Zika. Il y a une souche plutôt africaine, une souche plutôt asiatique. Là, c'est la souche asiatique qui en ce moment cause une épidémie en Amérique du Sud. Et on peut vraiment retracer comment elle a traversé l'océan Pacifique avec deux hypothèses qui ont été mises en avant pour l'introduction au Brésil, qui sont la Coupe du Monde de football et une compétition...
En 2014, plus, donc. Hein.
Voilà, et aussi une compétition plus de...
Canoë-kayak.
Canoë-kayak, voilà, où des équipes polynésiennes auraient participé. Mais donc voilà, soit par les supporters, soit par les athlètes. On pense que voilà, c'est ça qui a contribué à la propagation du virus.
Et le moustique dans tout ça, alors ?
Ah le moustique, il était déjà là.
Hein. Il sert d'amplificateur.
Parce que ça peut se transmettre de l'homme à l'homme ?
Alors, pour en venir à ça, il faut quand même être très clair. La transmission est avant tout par le moustique. Vraiment. Après, ça peut se transmettre par d'autres voies, transmission de la mère à l'enfant au cours de la grossesse, on a vu, transmission par voie sexuelle qui est en train d'émerger, qui sera peut-être un problème dans les pays comme les nôtres, par exemple, où la maladie peut difficilement être transmise par les moustiques, et encore, ça c'est à voir, mais enfin, en tout cas en hiver, qui ne peut pas être transmis par le moustique. Par contre, dans les pays comme le Brésil, l'immense majorité des contaminations se fait évidemment par le moustique. Donc tout est arrivé effectivement par un voyageur qui est venu au Brésil, probablement pour la Coupe du Monde de football, et puis il a été piqué par un moustique, et puis le moustique ensuite a piqué un Brésilien, et puis après, la maladie s'est développée comme ça. Et on pourrait tout à fait avoir ce genre d'épidémie épidémie en France, dans le sud de la France. Mon collègue pourra en parler. Et on a déjà eu des cas de chikungunya, on a déjà eu des cas de dengue. Alors c'est resté des cas groupés, il n'y a pas eu d'épidémie, mais on a eu une épidémie en Italie de chikungunya. Donc il faut être très vigilant.
Mais qu'est-ce qui fait précisément que dans certains cas il y a épidémie, dans d'autres cas ça reste relativement circonscrit et confiné ? Est-ce que là aussi, ce sont les facteurs socio-économiques que vous évoquiez tout à l'heure ? Est-ce que ça veut dire que les facteurs proprement biologiques ou naturels, finalement, sont assez marginaux dans cette émergence de nouvelles maladies émergentes ?
Non, c'est ça qui est compliqué avec l'émergence, c'est qu'en fait, tous les facteurs jouent de concert. Donc il y a à la fois un côté biologique... parfois, on en parlera peut-être, mais l'épidémie de chikungunya à La Réunion, il y a eu une mutation du virus, donc vraiment le virus a changé biologiquement. Il y a les facteurs environnementaux, Eric Combe l'a rappelé, les moustiques qui transmettent, enfin ceux qu'on pense être les principaux vecteurs de Zika, ne survivent pas en hiver chez nous, c'est les moustiques du genre Aedes. Donc là, il y a tout un aspect environnemental qui va jouer sur la transmission, et puis il y a les aspects aussi socio-économiques qui se superposent à ça. Donc c'est ça qui rend l'émergence compliquée. Et à cela, on peut même rajouter le rôle du hasard. C'est-à-dire que Eric Combe disait, par exemple, si un supporter infecté est arrivé au Brésil, on voit assez bien que ce supporter, il y a une composante de hasard, c'est-à-dire qu'il ne va pas nécessairement engendrer une épidémie. Donc en fait, on peut calculer cette probabilité d'épidémie. Et assez souvent, on pense que voilà, il faut quand même qu'il y ait plusieurs personnes qui soient infectées pour vraiment lancer la chose. Donc on a vraiment une multitude de facteurs, ce qui rend les émergences si difficiles à prédire.
Oui, parce que ça c'est quand même évidemment une question qui intéresse énormément de monde. Est-ce qu'on peut faire de la prédiction, ou en tout cas est-ce qu'on peut faire des hypothèses, hein? Le chapitre 4 de votre livre, Samuel Alison, qui s'intitule, je le rappelle, « C'est grave, docteur Darwin », s'intitule « Prévoir les prochaines pandémies », puis bien entendu vous mettez un point d'interrogation. Alors vous qui êtes modélisateur...
Un gros point d'interrogation.
Ouais. Enfin bon.
Après, donc voilà, si on prend ces différents critères dont j'ai parlé, par exemple sur la biologie, les usual suspects, les suspects principaux, ça va être par exemple assez souvent les virus ARN qui sont mis en avant, parce que c'est des virus qui évoluent et qui mutent extrêmement rapidement. Donc généralement, quand on se méfie de maladies émergentes, on va avoir plutôt les virus ARN dans le viseur, contrairement aux virus.
Oui, allez-y. Contrairement à...
Donc, contrairement à des virus ADN, par exemple, ADN double brin, qui eux évoluent plus lentement. Donc les virus ARN sont plutôt ceux dont on se méfie.
Et en deux mots, la spécificité ou la caractérisation du virus ARN par rapport au virus ADN,
c'est qu'il mute beaucoup plus vite. Donc à chaque fois qu'il se reproduit, il copie son génome, comme nous quand nous reproduisons. Mais il introduit des erreurs dans ce génome. C'est un peu comme les moines copistes qui copiaient des livres et qui parfois faisaient des erreurs. Et ces erreurs peuvent conduire à des fonctions biologiques différentes. Et donc c'est pour ça que les virus ARN sont si dangereux. C'est parce que leur progéniture est beaucoup plus diversifiée que celle des virus à ADN.
Et alors donc c'est ça qui rend si difficile selon vous de parvenir à faire sinon des prédictions, en tous les cas des scénarios ?
Tout à fait. Enfin, la grippe, par exemple, on en parlait en début d'émission.
Ah oui.
La raison.
Je veux bien qu'on en parle un peu, tiens d'ailleurs, parce que
voilà.
Je viens d'en faire l'expérience. J'avais pas compris avant de l'avoir à quel point ça pouvait être violent.
La grippe, ça c'est l'une des principales causes de mortalité en France. À mon avis, c'est bien plus sérieux que Zika au niveau de la mortalité potentielle. Et la grippe, si le vaccin, par exemple, on doit se refaire revacciner chaque année, c'est justement parce que la grippe est un virus qui évolue extrêmement rapidement. Parce que sinon, la grippe, si vous, en théorie, à contrôler, la grippe, si elle n'évoluait pas, ce ne serait pas si compliqué. Parce qu'une personne infectée infecte en moyenne deux autres personnes.
Par voie aérienne.
C'est-à-dire que, voilà, si vous vaccinez 50% de la population, normalement, il n'y a plus de grippe. Mais le problème, c'est que la grippe qui revient l'année d'après, ce n'est pas du tout celle contre laquelle vous avez vacciné.
Donc, et comment ça se fait, ça ? C'est pour les raisons que vous indiquiez tout à l'heure, parce que c'est un virus ARN.
Parce que c'est un virus ARN qui évolue. Alors en plus, lui, il a différents modes d'évolution. Et donc, chaque année, il revient un peu différent, voire extrêmement différent, comme on avait vu en 2009 avec la grippe dite porcine, où là, on avait un virus complètement différent.
Parce que là, mine de rien, il y a eu un communiqué des autorités sanitaires françaises aujourd'hui, comme quoi, bien que ça fasse 8 semaines qu'on est confronté à une épidémie de grippe en France, on est toujours sur un pic.
On attend le pic.
On attend le pic. Alors, ça veut dire qu'on est encore en progression, si j'ose dire. Donc, on n'a encore rien vu. Et j'ai même entendu le chiffre rapporté par la rédaction de France Culture que 1 700 000 Français auraient consulté ces 8 dernières semaines pour cette maladie. Est-ce que ça aussi, ça vous paraît représentatif, non pas des maladies émergentes, parce que c'est pas une maladie émergente, la grippe, mais en tout cas représentatif, disons, de la manière dont les sociétés modernes et contemporaines auraient à faire face, de manière peut-être qu'on n'envisageait pas il y a encore 30 ou 40 ans, à des dangers pour la santé mondiale liés à des maladies qu'on pensait pourtant, disons, connues, voire maîtrisées. C'est-à-dire que j'entends bien que vous estimez l'un et l'autre qu'il faut être très prudent s'agissant de la prospective, mais est-ce qu'on peut au moins dire ou ne pas dire que oui, au XXIe siècle, les sociétés humaines, sachant qu'on est quand même maintenant plus de 7 milliards, qu'on sera probablement près de 10 milliards en 2100, on risque d'avoir finalement beaucoup plus de mal qu'on ne l'imaginait au XXe siècle à maîtriser les épidémies.
Je pense que oui, hein, ne serait-ce que par la population dont vous venez de parler et par les facteurs qui sont liés à cette surpopulation, parce que
Vous dites surpopulation. C'est un gros débat chez les démographes.
Hein. Oui, enfin,
dès qu'on dit surpopulation, c'est l'idée que ça serait, disons, difficilement supportable.
Moi, je ne suis pas démographe, clairement, mais je lis quand même pas mal et je crois avoir lu que nous avions déjà atteint je crois que au mois de septembre ou au mois d'octobre,
l'empreinte écologique.
Voilà, l'empreinte. C'est bon pour l'année, quoi. Donc, voilà. Chaque année, on compromet un peu plus les années suivantes.
Mais ça, c'est pas forcément lié au nombre que nous sommes. Ça peut être lié au mode de consommation, par exemple.
Oui, mais je pense que le nombre, il fait quand même beaucoup. Et puis, il y a d'autres problèmes en ce qui concerne les épidémies. C'est le problème de l'urbanisation absolument galopante. C'est le problème de la gestion des déchets qui est absolument catastrophique. Or, il faut bien voir, on parlait tout à l'heure du moustique. Le moustique aime... se reproduire dans des petits réservoirs d'eau qui très souvent sont très proches des déchets en fait. Hein. Donc on a un vrai problème des déchets, un vrai problème de population, un vrai problème d'urbanisation mal organisée, anarchique, un vrai problème de bidonville, en tout cas dans des pays et même chez nous, hein, y a pas que le Brésil. Je pense que ça c'est des problèmes dont il faut parler.
Samuel Alizon.
Alors, s'il s'agit de comparer ce à quoi on s'attendait il y a 30-40 ans en termes de maladies infectieuses et de dire que, effectivement, les prévisions étaient peut-être trop optimistes, là, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, à la fin des années 60-70, avec la découverte, la généralisation des antibiotiques, il y a vraiment un optimisme très fort. Et cet optimisme a été attaqué de plein fouet par l'émergence du VIH, déjà, dans les années 80, et par la généralisation des résistances aux antibiotiques. Donc là il y aura pas, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les maladies infectieuses vont avoir un rôle beaucoup plus élevé que ce à quoi on
s'attendait au XXe siècle. Et cette résistance aux antibiotiques, si on peut en dire quelques mots, puisque manifestement elle a surpris la communauté à la fois scientifique et médicale, comment l'explique-t-on, comment peut-on en rendre compte, Eric Homme?
Ça c'est très facile, hein. C'est la consommation des antibiotiques qui génère la résistance aux antibiotiques, hein. C'est darwinien probablement.
Samuel Alizon.
En fait, le seul moyen de ne pas avoir de résistance à un médicament anti-parasite, enfin j'utilise parasite dans un terme général, anti-infectieux, c'est de ne pas l'utiliser. À partir du moment où vous utilisez un de ces médicaments, la question n'est pas est-ce qu'on va avoir des résistances, mais quand.
Et on le savait ça déjà dans les années 60-70, au moment où on s'est mis à utiliser, de façon sans aucune restriction, les antibiotiques.
Oui. À partir du moment où les antibiotiques, notamment la pénicilline, est arrivée, les résistances sont apparues, c'est clair. Au début, tous les staphylocoques dorés étaient sensibles à la pénicilline G. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez plus que 5 à 10% des staphylocoques dorés qui sont sensibles à la pénicilline G. Et c'est un phénomène croissant depuis les années 40, c'est-à-dire depuis l'apparition de la pénicilline G.
Et alors pourquoi on n'en a pas tenu compte dans les politiques publiques?
Ça a été dit par beaucoup de collègues. Moi, ça fait 20 ans que j'entends j'entends parler autour de moi de la résistance aux antibiotiques. Alors après, c'est vrai que ça n'intéressait personne parce qu'on ne mourait pas de bactéries résistantes aux antibiotiques. Eh bien ça y est, maintenant on meurt de bactéries résistantes aux antibiotiques, de maladies comme la tuberculose qu'on ne peut plus soigner parce qu'elle est devenue résistante aux antibiotiques. Donc on est dedans de plein pied et c'est un vrai problème à considérer, à mon avis, autrement plus inquiétant que le Zika.
Et vous pensez qu'il y a des... Comment dire ? Il y a des pistes pour le considérer d'une manière qui permettrait de trouver des solutions ? Ou bien, en gros, vous considérez que, parce qu'on n'a pas fait attention, qu'on n'y a pas prêté l'attention qu'il eût fallu dans les décennies précédentes, là, maintenant, on va avoir de gros, gros problèmes ? Eric Combe ?
Ben oui, heureusement, il y a forcément des pistes. La recherche, je crois beaucoup en la science et je crois beaucoup en la recherche. Voilà. Donc je suis persuadé qu'il y a des solutions et que ces solutions vont arriver. Après, est-ce que ces solutions sont développées tout de suite ? Je ne sais pas, parce que ce sont les laboratoires qui développent les produits et les laboratoires ne sont pas forcément intéressés par les infections. Ils sont plus intéressés par des maladies comme le cancer ou par des maladies cardiovasculaires avec lesquelles les profits sont beaucoup plus conséquents.
Samuel Alizon, sur ce point ?
Pour en remettre une couche sur le fait qu'on savait et que ce problème de la résistance n'est pas nouveau, Alexander Fleming, quand il a reçu le prix Nobel en 1945, a prononcé un discours et la fin de son discours porte sur la résistance, en fait. C'est vraiment, il met en garde contre l'utilisation irrationnelle des antibiotiques en disant que ça peut conduire à des résistances, que ça a été observé in vitro et que ça pourra probablement s'observer in vivo. Donc c'est 1945, mais c'est vrai que jusque dans, là encore, les années 60-70, on trouvait des nouveaux antibiotiques à un rythme assez élevé. Et là, le rythme de découverte des nouvelles molécules antibiotiques, c'est extrêmement tari. Je crois qu'il y a eu une nouvelle famille de molécules depuis les années 2000. Donc là, maintenant, on commence à se rendre compte de ce problème, mais qui était déjà potentiellement pointé du doigt.
Et une autre chose dont je veux parler, pardonnez-moi de vous interrompre, Monsieur Alizon, mais un autre problème, c'est le problème de l'utilisation des antibiotiques dans le monde animal. D'ailleurs, je pense qu'il en parlerait beaucoup mieux que moi.
Oui, c'est sûr que les antibiotiques dans le monde animal, les antibiotiques sont intéressants dans les élevages, porcins ou autres, parce que non seulement ça permet de lutter contre les infections bactériennes, et en plus, ça accélère la croissance musculaire des animaux. Pour des raisons d'ailleurs qui sont assez intéressantes, qui sont assez mal comprises. On comprend pas très bien pourquoi le fait de donner des antibiotiques accélère la croissance musculaire, mais ça marche. Et donc pour cette raison, les antibiotiques sont extrêmement intéressants d'un point de vue de rentabilité dans les élevages intensifs. Et donc là, effectivement, on a une corrélation très nette entre... Alors, l'utilisation générale, en fait, il y a une étude dont je parle dans le livre qui commence à dater un petit peu, mais qui est intéressante, où les auteurs étaient allés estimer la quantité de pénicilline prescrite dans différents pays européens et avaient ensuite essayé de corréler cette quantité avec le pourcentage de souches de streptocoques qui étaient résistants à cette pénicilline. Et vraiment, la régression est impressionnante. Et vous avez en gros les pays qui prescrivaient extrêmement peu d'antibiotiques, comme les Pays-Bas, dans lesquels on trouve extrêmement peu de souches résistantes. Et tout en haut à droite, vous avez la France qui prescrivait le plus d'antibiotiques à l'époque et qui avait 50% des souches résistantes. Donc c'est une illustration que les politiques de santé publique façonnent les pathogènes auxquels on fait face.
Et c'est donc aussi une illustration que, puisque vous citez là deux pays très proches, la France et les Pays-Bas, appartenant dans les deux cas à une même Union européenne, il n'y a manifestement pas de coordination, enfin il n'y a même pas d'échange de bonnes pratiques, ou il n'y aurait pas d'échange de bonnes pratiques, et pas de coordination des politiques publiques de santé, qu'elles soient animales ou humaines, entre les pays européens.
Animal, il y a eu des progrès. Il y a eu, sous l'impulsion du Danemark notamment, l'Union européenne a été une des premières à interdire l'utilisation des antibiotiques comme additifs dans les élevages animaux. Mais à ma connaissance, aux États-Unis, je ne sais pas si c'est encore le cas. Donc il y a quand même une certaine coordination. Mais alors c'est vrai que d'un point de vue scientifique, en fait, ça interpelle le fait que des pays comme la France et les Pays-Bas puissent avoir des prévalences si différentes de bactéries résistantes. En fait, on s'attendrait, vu de ce dont on parlait tout à l'heure, quoi, les flux de voyageurs, à ce qu'il y ait une beaucoup, beaucoup plus grande homogénéité entre les pays. Et ça, c'est vrai que d'un point de vue scientifique, ça interpelle.
En tous les cas, s'agissant des politiques publiques, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que, à propos de Zika, a fait une déclaration d'urgence sanitaire mondiale qui fait elle-même débat. Je voudrais vous proposer qu'on entende un instant un extrait de l'entretien que Patrick Zilberman avait accordé à Guillaume Erner dans les matins de France Culture. C'était le 4 février 2016.
Les recommandations, c'était créer un niveau d'alerte intermédiaire en début de crise, de façon à ne pas être obligé d'aller aux extrêmes de la mobilisation d'un seul coup. Créer un centre OMS de préparation et de riposte, ce que Margaret Chan vient de faire, aussi, dans le cas des situations d'urgence. Que l'OMS devienne l'autorité de référence pour la communication au sujet des urgences sanitaires. Là, la route est longue, y a du travail à faire. Et que l'OMS acquiert enfin une culture de la décision rapide, ce que, évidemment, à quoi elle était totalement étrangère. Et donc, Chan, aujourd'hui, s'applique à, précisément, mettre en œuvre ces recommandations des experts. Mais comment ? En faisant cette déclaration sur la situation d'urgence sanitaire de portée internationale. Zika, donc, correspondrait à cette expression qui est précisément définie par le règlement sanitaire international, qui est un traité qui oblige les États, qui contraint les États, c'est dans l'annexe 2 de ce règlement, et est qualifié de situation d'urgence sanitaire de portée internationale, un événement qui doit satisfaire à au moins deux des quatre critères suivants. D'abord, possibilité de répercussions graves sur la santé publique du pays concerné. Deuxièmement, être un événement extraordinaire, inattendu, inhabituel, etc., imprévu. Troisièmement, comporter des risques de propagation internationale. Et quatrièmement, entraîner des risques de restriction sur les voyages et les échanges internationaux. Or, on peut dire que Zika, aujourd'hui, satisfait au moins à deux de ces critères, sinon à trois. Et donc, la motivation de cette qualification d'urgence sanitaire de portée internationale, c'est l'impact sur d'autres États, limitrophes ou éloignés, et la nécessité de mettre en œuvre une action coordonnée à l'échelle internationale pour lutter contre l'épidémie.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
On s'interroge aujourd'hui sur les nouveaux virus émergents. Sont-ils un danger pour la santé mondiale ? Disons cette explication de Patrick Zilberman, professeur de la chaire d'histoire de la santé à l'école des hautes études en sciences sociales, en santé publique, me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, Éric Combes et Samuel Alizon, à savoir que Zika évidemment est un vrai problème de santé publique, mais finalement beaucoup moins dangereux à court et à moyen terme que, par exemple, vous le disiez, la recrudescence de la tuberculose, la résistance d'un certain nombre de maladies aux antibiotiques. Vous avez aussi évoqué, bien entendu, l'épidémie de VIH-Sida qui se poursuit. Je pourrais ajouter le PALU qui est très très loin d'être réglé. Donc, question peut-être naïve, mais en tous les cas toute simple, qu'est-ce que vous pensez de ce fait, l'Organisation mondiale de la santé qui déclare Zika une urgence sanitaire mondiale, alors qu'il y a ces autres problèmes très très graves que vous avez évoqués dans la première moitié de l'émission et qui ne semblent pas mériter, en tous les cas aux yeux de l'OMS, un tel degré d'urgence. Qu'est-ce que ça nous dit sur, on va dire, la mondialisation actuelle et la santé publique en particulier, Éric Combes ?
Écoutez, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre, je vous avoue franchement. Je ne comprends pas toujours ce que fait l'OMS, donc c'est encore plus difficile pour moi de... Puis j'ai pas envie de la critiquer. Bon, Ebola, ils ont été un peu lents, même assez lents. Zika, ils ont été plutôt rapides. Voilà ce qu'on peut dire. Après Zika, il faut quand même rappeler que dans 80% des cas, la maladie est asymptomatique.
Qu'est-ce que ça veut dire asymptomatique ?
Il n'y a pas de symptômes, on ne s'en rend même pas compte. Donc on ne se rend même pas compte qu'on est infecté. Donc c'est dire quand même la bénignité générale de cette maladie. Après, il y a le problème des femmes enceintes, qui, à mon avis, est clairement le problème le plus important, parce qu'elles vont mettre au monde des enfants probablement avec des malformations congénitales. Les microcéphalies, qui sont 1% des grossesses, enfin des femmes enceintes Zika, sont probablement que la surface émergée de l'iceberg, donc on s'attend à d'autres complications neurologiques. Et là, de ce point de vue-là, je suis assez inquiet, surtout dans des pays où il n'y a pas de contraception orale, où 50% des grossesses ne sont pas désirées, et où il n'y a pas, enfin quand je dis il n'y a pas de contraception orale, je veux dire qu'elle n'est pas répandue de manière courante, où 50% des grossesses sont désirées, et où en plus le droit à l'avortement n'existe pas. C'est-à-dire que par exemple au Brésil, pour avorter, il ne faut même pas avoir de microcéphalie détectée in utero, il faut avoir une anencéphalie, c'est-à-dire pas de cerveau, quoi. Donc c'est vous dire que les critères ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, je suis inquiet pour les femmes enceintes. Et leurs enfants, évidemment, les nouveau-nés. Pour les complications neurologiques, je crois qu'il faut quand même rassurer les gens, hein, c'est probablement aussi fréquent que dans la grippe, quoi. Voilà, je suis désolé hein, pour vous, mais la grippe peut aussi donner des complications neurologiques à type de syndrome de
Guillain-Barré. J'espère que je ne vous donne pas le sentiment d'en avoir.
Pas du tout, pas du
Merci
tout.
Merci pour me rassurer.
Voilà, il y a plein d'autres maladies infectieuses qui peuvent se compliquer par un syndrome de Guillain-Barré. Donc on se focalise sur syndrome de Guillain-Barré et Zika, mais bon, ça m'apparaît quand même un peu... parfois un peu, disons, trop, quoi.
Oui, oui. Bah, on avait dit un peu pareil pour le SRAS, quand on s'était mis tout
à
l'heure.
Ah oui, mais attendez, le SRAS, c'est un peu différent, pardonnez-moi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de... Il y avait moins de malades, effectivement, mais la mortalité était de 50%.
Donc, a posteriori, la politique publique de prévention mise en œuvre par le gouvernement de l'époque, sous Roselyne Bachelot, vous paraissait, on va dire, plus pertinente, en tout cas plus judicieuse que... le fait qu'aujourd'hui l'OMS déclare un état d'urgence mondial.
C'est des maladies qui se transmettent par voie respiratoire. Donc les maladies qui se transmettent par voie respiratoire sont toujours, en général, hein, beaucoup plus contagieuses que les maladies qui se transmettent par un vecteur.
Ça peut aller très vite, quoi. Voilà. Samuel Alizon, votre sentiment sur, disons, cet élément de politique publique mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, qui, je le rappelle, dépend de l'ONU. Je vous pose d'autant plus la question que dans votre livre « C'est grave, docteur Darwin », vous consacrez tout un chapitre, finalement, disons, à ce qui est pour vous, si j'ai bien compris, une lacune importante des politiques publiques de santé, voire même des études médicales, à savoir l'étude de l'écologie des parasites, pour le dire rapidement avec mes termes de non-spécialiste.
Oui, enfin, bon, là, c'est vrai qu'on est plus sur un problème d'actualité que sur un problème d'écologie. Mais c'est vrai que, comme l'a rappelé Eric Combe, le Zika en tant que tel, une infection, est à la limite moins dangereuse par infection que d'autres virus connus. Par exemple, donc Zika, c'est ce qu'a rappelé Eric Combe, c'est 1% de risque de complications dans une grossesse. Le cytomégalovirus, c'est plus de 10%. Donc, alors, comme ça, on pourrait dire Zika, c'est 10 fois moins que le cytomégalovirus. Mais
qu'est-ce que c'est le cytomégalovirus?
C'est un autre virus qui est connu, en fait, pour causer des malformations chez les femmes enceintes. Enfin, chez les bébés durant la grossesse. Et il existe un certain nombre de virus qui sont connus pour causer ces malformations. Mais la grosse différence, c'est que ce cytomégalovirus, son incidence en France, c'est 1 à 4% des femmes enceintes qui vont y être exposées. Là, le Zika, c'est plus de 60% de la population cette année. Donc l'OMS a pas tort dans le sens où s'il y a une année où c'est vraiment dangereux, c'est la première année. C'est-à-dire que c'est la première année que vous allez avoir des millions d'infections. A priori, les années suivantes, une fois que les gens seront immunisés, vous pourrez pas avoir des pics épidémiques comme ça. Donc en gros, s'il y a une année où vraiment mettre le paquet dans la prévention, c'est vraiment l'année avant la première épidémie.
Ça, c'est très important.
Éric Combe.
Oui, enfin, je suis désolé de vous interrompre, mais c'est très important ce qui vient d'être dit là. Parce qu'effectivement, il suffisait de dire on repousse les grossesses d'un an et puis le problème était réglé. Parce qu'effectivement, une fois que toute la population aura rencontré ce virus, ou disons 70% de la population, eh ben, on n'en entendra quasiment plus parler. Ça circulera à bas bruit, mais sans conséquences majeures. Désolé de vous avoir interrompu.
Mais en même temps, Éric Combe, vous disiez tout à l'heure justement que, en parlant du Brésil, que 50% des grossesses n'étaient pas désirées. Donc c'est peut-être pas si facile que ça de dire pendant un an.
Oui, enfin, exact. C'est vrai. Mais en tout cas,
reporter d'un an.
Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas un discours facile à tenir. Je suis d'accord.
Ça dépend des pays. Mais précisément, s'agissant, disons, des différences géographiques, je voudrais avoir votre sentiment sur Le chiffre suivant que j'ai trouvé dans l'Atlas de la santé des éditions Autrement, dirigé par Gérard Salem et Zoé Vaillant, si j'ai bien lu, dans les pays du Sud, ce qu'on appelle les pays du Sud, où on ne dit plus tellement en voie de développement maintenant, on dit les Suds, dans les pays pauvres et encore les pays émergents aussi, comme le Brésil par exemple, les maladies infectieuses sont à l'origine de 43% des décès. Bon. Alors que dans les pays des Nord, les maladies infectieuses sont à l'origine de seulement 1% des décès. Est-ce que cette différence très importante, explique peut-être ce dont vous parliez tout à l'heure, Eric Combe, à savoir que les grands laboratoires s'intéressent davantage au cancer qu'à la résistance aux antibiotiques. Est-ce que cette différence très importante entre pays des Sud et pays des Nord peut expliquer là aussi que finalement, alors qu'on croyait qu'on allait vers une éradication des maladies infectieuses au XXe siècle, finalement on va y être à nouveau confronté de manière très forte au XXIe siècle? Est-ce qu'il y a une espèce d'inégalité de développement territorial, hein? Vous disiez tout à l'heure l'un et l'autre que les facteurs socio-économiques étaient très importants, et j'ai l'impression à vous entendre qu'ils sont peut-être même plus importants que les facteurs proprement écologiques ou environnementaux. Est-ce que cette inégalité géographique et territoriale, bon, comme ça très massive, est quelque chose qui peut changer dans les années à venir selon vous? Eric Combe.
Je voulais pas prendre la parole parce que, mais bon, je vais très rapidement. C'est ce qu'on appelle la transition épidémiologique en fait. C'est-à-dire que les pays du Sud vont de plus en plus être impactés par les maladies du Nord, la surcharge pondérale, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, le vieillissement, les cancers, et les pays du Sud et les pays du Nord, peut-être à l'inverse, vont devoir renouer avec les maladies infectieuses. Mais en tout cas, les pays du Sud, l'impact des maladies infectieuses devient maintenant de beaucoup moins important. Et je pense qu'il y a des problèmes émergents qui sont très inquiétants, comme par exemple la pollution. Quand vous voyez le nuage dans lequel les Pékinois, les habitants de Pékin respirent, vous vous dites que ce n'est pas possible qu'il ne se passe rien.
Et est-ce que le changement climatique va avoir un impact important sur ces données de santé publique à l'échelle mondiale? Eric Combe.
Non, Samuel Aluzon sera meilleur que moi.
Excusez-moi, Samuel Aluzon.
Oui, non, alors,
désolé.
Non, mais il y a un point, effectivement.
C'est la grippe qui commence à m'embrouiller l'esprit.
Il y a un point que je voulais mentionner, encore une fois, ce qui peut-être pour revenir un peu à l'OMS et les défendre, c'est que on touche en fait de plein fouet le problème aussi de la recherche fondamentale, qui est lié au fait que voilà, c'est comme vous l'avez dit, ces maladies semblent être moins un enjeu à court terme pour les pays du Nord. Donc la recherche qui est faite là-dessus, c'est les écologistes et les biologistes de l'évolution comme nous, avec nos petits financements. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment un déficit au niveau de cette recherche fondamentale. Si vous prenez Zika, là j'ai regardé hier, vous avez 260 articles scientifiques qui ont été publiés. 260 articles depuis la découverte de Zika dans les années 40. C'est risible. C'est 50 000, le VIH, on n'en parle même pas. Et sur ces 260 articles, vous en avez 110 qui sont de 2016. Donc au cours des trois derniers mois, vous avez eu quasiment autant d'articles publiés que depuis la découverte de Zika. Donc on a vraiment un déficit au niveau de la recherche fondamentale. Et du coup, c'est là où l'OMS était un peu piégé, c'est que l'OMS devait prendre des décisions, mais sans savoir de quoi il en retournait. Donc en fait, les décisions de l'OMS suivent quasiment le rythme des publications.
Alors, donc, ouais. Non, excusez-moi, terminé. Je rappelle que vous êtes en duplex de Montpellier.
Oui, ça facilite pas.
France Bleu Héros.
Mais donc c'est effectivement lié ce déficit de recherche. Enfin, les maladies infectieuses sont de plus en plus vues par les pays du Nord comme de la recherche fondamentale par rapport à des thématiques plus appliquées comme le cancer, où là, ça semble être un enjeu à court terme. Et la recherche fondamentale n'est pas des plus riches en ce moment.
Et pourtant, s'agissant d'Ebola, dont vous avez bien rappelé tout à l'heure l'un et l'autre, que évidemment c'était un cas de figure très très différent de Zika et bien plus mortel, le vaccin a été mis au point en un temps record finalement. Ça vous fait rire?
Non, pas du tout, je tousse aussi.
Pardon, excusez-moi.
C'est une épidémie de grippe.
C'est ça, Eric Combe. On a eu le sentiment que, et la recherche fondamentale, et ses débouchés en termes de recherche appliquée, sous l'égide finalement de l'OMS et de plusieurs politiques publiques dans différents États, a été très efficace s'agissant d'Ebola.
C'est vrai que sur Ebola, l'histoire de la vaccination, ça a été une rapidité qui nous a d'ailleurs tous un peu surpris, et parfois même décontenancés. En même temps, on s'en est réjoui parce qu'on avait affaire à une maladie qui tuait dans 50% des cas et qui tuait le personnel soignant. Faut pas l'oublier, hein, le personnel soignant a payé une très lourde contribution à l'épidémie d'Ebola. Donc on était très content d'avoir ce vaccin rapidement. En même temps, il y a des étapes qui ont été grillées, quoi. Heureusement que le vaccin n'a pas donné de problème de tolérance, comme le médicament qui a été testé à Dijon sur quelques personnes...
À Rennes. Ouais,
à Rennes, pardon. Vous imaginez un peu les mêmes conséquences. Donc je pense qu'il y a des étapes qui ont été grillées, clairement.
On a pris un gros risque, on voulait dire.
Un gros risque, je sais pas.
On a pris un risque qui était à la mesure du risque épidémique.
En tout cas, il y a des étapes du développement d'un médicament qui ont été court-circuitées. Ça, c'est clair. Et on a vu ça qu'avec le vaccin Ebola, et je ne suis pas sûr qu'on revoie ça avec d'autres produits, même si c'est des laboratoires, ça les intéresserait, parce que ça leur, toute étape court-circuitée leur fait économiser de l'argent dans le développement d'un médicament qui coûte de toute façon très cher.
Mais est-ce que j'ai raison d'entendre comme un de vos sous-textes que finalement, contrairement à ce qu'on peut croire, sans doute naïvement, le monde des laboratoires pharmaceutiques et le monde de la recherche publique, finalement, ne sont pas très bien articulés, quoi. Ils n'ont pas, bon, qu'ils n'aient pas les mêmes logiques, ça on le sait, mais moi j'avais comme ça un peu naïvement l'impression que néanmoins il y avait des passerelles, quoi. Que finalement, ça tirait quand même dans un même sens qui était celui du progrès médical. Mais j'ai l'impression, en vous entendant, depuis le début de l'émission, même si vous le dites de manière très diplomatique, que ce n'est pas du tout le cas.
Certains voient peut-être le progrès médical, là où d'autres voient le profit médical.
Voilà. Samuel Alizon.
Non, pour illustrer, en fait, ben on le voit, Sanofi est assez emblématique là-dessus. C'est-à-dire que ça, en fait, l'articulation se fait dans le sens où les laboratoires pharmaceutiques se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire faire leurs recherches par la recherche publique. Donc vous avez Sanofi par exemple, qui effectivement va peut-être augmenter les contrats avec la recherche publique, mais qui dans le même temps ferme sa branche de recherche parce que voilà, encore une fois, ils se sont rendus compte que c'est plus rentable de faire faire leurs recherches par les labos publics.
Est-ce que ça veut dire qu'ils la financent directement ou indirectement? Parce que...
Oui, ils la financent, mais c'est-à-dire avant, ils finançaient leurs chercheurs pour le faire. Maintenant, ils vont en gros financer la recherche publique avec beaucoup de chercheurs publics qui sont contents, entre guillemets, parce que ça leur permet de continuer à faire de la recherche, alors que les financements se raréfient. Mais c'est assez cynique dans le sens où, voilà, c'est vraiment un objectif de rentabilité.
Enfin, c'est tout à fait vrai. Hein, c'est très vrai ce qui a été dit là. Un très bon exemple, c'est les médicaments pour le virus de l'hépatite C, par exemple. Quoi. C'est,
ah oui,
là, on est dans la...
À savoir, si vous pouvez... développer un petit peu.
Je peux difficilement rentrer dans les détails parce que ça va nous prendre un peu de temps, quoi. Mais globalement, le laboratoire pharmaceutique qui fait le plus d'argent au jour d'aujourd'hui avec des antiviraux efficaces contre l'hépatite C n'a pas dépensé un sou en recherche dans l'élaboration de ce médicament. Il a juste racheté le médicament qui avait été produit par un petit laboratoire de start-up et puis après, ben, ils ont surfé sur la vague, quoi. Et ils font des millions de profits avec des médicaments pour lesquels les traitements sont hors de prix. À tel point, c'est qu'on ne peut pas traiter tout le monde, même dans un pays comme chez nous.
Et comment dire, la communauté médicale et scientifique a des idées sur comment on pourrait faire autrement ?
Écoutez, c'est très interpellant, hein, parce que par exemple, les médicaments n'ont pas le même prix selon les pays. Si vous prenez les médicaments contre l'hépatite C, par exemple, bah, ils se vendent 100 fois plus cher. Enfin, je voudrais pas dire de bêtises, donc je préfère.
Mais
ils se
vendent plus cher, beaucoup
plus cher. Hein, c'est en France qu'en Égypte, par exemple.
Ah oui.
Ah oui, oui.
Mais qui décide des prix?
C'est un échange entre les autorités sanitaires et puis les laboratoires pharmaceutiques.
Et ça. Ce genre de données, Samuel Alizon, vous pouvez les intégrer dans vos travaux de modélisation ?
Oui, enfin, on peut toujours intégrer. Après, moi, c'est vrai que je m'intéresse plus à ce qui est la partie épidémiologique, qui est à la limite plus facile à modéliser, parce que c'est ça qui est intéressant, en fait, avec un agent infectieux, c'est qu'un agent infectieux qui se propage, si vous prenez, par exemple, la rougeole qui se propage dans une école où les enfants ne sont pas vaccinés, vos prédictions mathématiques, elles vont coller quasiment exactement au nombre de cas que vous allez relever chaque semaine. Donc vous avez des processus qui sont faciles à modéliser parce que extrêmement répétables. À partir du moment où vous commencez à mettre dans l'équation des choses aussi compliquées que le raisonnement des firmes pharmaceutiques même s'il est peut-être assez simpliste. Enfin, ça rend les modèles beaucoup plus compliqués. C'est vrai que c'est des thématiques qui sont assez intéressantes, sous-étudiées aujourd'hui. En fait, c'est l'articulation entre l'épidémiologie et l'économie, par exemple. Mais là, c'est pas du tout mon domaine d'expertise.
Je comprends bien.
Après, sur l'industrie pharmaceutique, comme disait Eric Combe, il en faudrait une émission tout entière et vous avez énormément d'ouvrages. Enfin, en particulier, un des plus connus, c'est celui de Philippe Pignard sur le grand secret de l'industrie pharmaceutique. Et lui, sa thèse, c'est que c'est une industrie, entre guillemets, qui devrait être nationalisée ou à une échelle européenne, mais que laisser des intérêts privés contrôler cette industrie, c'est suicidaire.
C'est la même chose aux États-Unis.
C'est même encore plus caricatural.
C'est encore plus caricatural. Et vous avez le sentiment là-dessus que ça ne peut, comment dire, que cet état de fait ne peut que s'accentuer dans les années qui viennent, alors même que vous nous avez expliqué tout à l'heure que, disons, la situation sanitaire mondiale va plutôt se dégrader et qu'on aurait plutôt besoin d'un grand effort de recherche à l'échelle mondiale, finalement. Eric Combe.
C'est difficile, hein. Samuel Alizon a parlé de nationalisation et je pense qu'il avait raison. Or, la tendance actuelle qui se développe, à mon avis, ne va pas du tout dans ce sens-là. Hein. Le capitalisme est triomphant, hein, d'ailleurs, avec toutes les conséquences qu'on mesure quotidiennement.
Il y a un aspect qui est intéressant, excusez-moi, oui. Non, c'est sur les alternatives et les remises au goût du jour. Il y a la phagothérapie qui est assez intéressante, enfin, c'est la thérapie phagique. Donc Eric Combe pourra certainement compléter, mais l'idée c'est d'utiliser des virus qui n'infectent que les bactéries pour soigner certaines infections bactériennes, et en particulier des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Donc là, l'Union européenne a décidé de s'intéresser à ça. Il y a un gros essai clinique, je crois, qui est en place pour utiliser ces virus, ces bactériophages, pour prévenir ou guérir des infections pour des brûlés, des infections de la peau. Et ça, c'est intéressant dans le contexte du brevetage et des entreprises pharmaceutiques, parce que le bactériophage, le virus, étant une entité vivante qui évolue, ça le rend très difficilement brevetable. Et c'est d'ailleurs une des interprétations sur pourquoi ces thérapies à base de bactériophages ont eu tendance à disparaître. Bon, après, il y a tout un aspect, un contexte géopolitique, parce qu'elles étaient développées principalement par l'URSS. Mais c'est intéressant dans le débat du brevetage et de l'industrie pharmaceutique, parce que justement, le fait d'utiliser un organisme vivant, alors ça c'est un autre débat, parce que les virus sont vivants, mais je vais dire que oui, utiliser un organisme vivant coupe un peu l'herbe sous le pied à l'industrie pharmaceutique. Et donc ça peut être quelque chose qui peut remettre en question ce monopole finalement de l'industrie pharmaceutique.
Eric Combe.
Oui, je suis d'accord, les bactériophages, c'est quelque chose de très enthousiasmant. C'est dans la nature, c'est un virus. C'est un virus qui mange les bactéries, donc c'est génial. Par contre, là où ça pose des problèmes, c'est qu'en fait, il faut l'administrer au site de l'infection. Et là, ça pose problème. C'est pour ça que les brûlés, c'est parfait, parce qu'on applique ça directement sur la peau, c'est parfait. Mais si vous avez une pneumonie, il faudrait mettre des bactériophages directement dans vos poumons, ce qui pose des problèmes.
C'est compliqué.
Voilà, si vous avez une infection dans l'os, il faudrait mettre les bactériophages directement dans l'os, c'est un problème. Mais en tout cas, c'est une piste de recherche qui est très intéressante. Cette remarque qu'a fait Samuel Alizon, ça renvoie à même plus loin. Il est très probable que dans la nature, on ait tout. Or, on est quand même pas mal en train de détruire la nature. Et surtout, si on trouvait un produit miracle dans la nature, comment pourrait-on l'exploiter? Parce qu'effectivement, il y a un problème de brevet, donc il ne pourrait pas y avoir de profit, etc., etc.
Donc, si je comprends bien, la réduction de la biodiversité, qui a priori a l'air assez éloignée de tout ce dont on vient de parler depuis presque une heure maintenant, est un problème central.
Ah bah pour moi, c'est une catastrophe, mais je pense que Samuel Alizon est beaucoup plus proche du sujet que moi. Hein.
Oui, on le voit sur les maladies émergentes ou même par exemple la grippe aviaire dont on a un petit peu parlé. Alors on a tenté de nous faire croire aux grandes heures de la grippe aviaire que la principale menace venait des oiseaux migrateurs et qu'il fallait tuer tous les oiseaux migrateurs pour éviter d'avoir la grippe aviaire. Et en fait, les chercheurs de l'équipe en particulier François Renault, quand ils avaient regardé les premiers sites sur lesquels il y avait des foyers de grippe aviaire, on s'apercevait que ça suivait quasiment le trajet du transsibérien et que finalement la grippe aviaire suivait les réseaux du commerce international des volailles. Et on pense qu'un des facteurs qui facilite l'émergence de ces grippes aviaires, c'est le fait d'avoir une très grande concentration d'hôtes, les volailles, qui en plus ont une très faible diversité génétique. Donc ça, pour un virus ou pour un pathogène quelconque, c'est le paradis. Parce que le problème qu'a un virus, c'est qu'il exploite un hôte. Bon, il arrive à exploiter les cellules, à fabriquer des nouveaux virus. Mais ensuite, il faut changer d'hôte. Et potentiellement, l'autre hôte n'a rien à voir, a une immunité complètement différente. Et donc, il faut tout recommencer. Mais en revanche, si vous êtes dans un élevage de volailles qui sont toutes identiques génétiquement, alors là, c'est extrêmement facile pour le virus de faire des épidémies majeures.
C'est à cela que vous faisiez allusion tout à l'heure en disant qu'il y avait un débat pour savoir si les virus étaient ou non des êtres vivants, c'est que le virus ne se développe que en fonction de l'hôte dans lequel il s'est implanté, si je peux le dire comme ça.
C'est même plus que ça, c'est-à-dire que le virus doit utiliser les cellules de l'hôte. Parce que finalement, beaucoup de bactéries ou d'autres parasites doivent infecter leur hôte. Le paludisme doit infecter son hôte. Mais le virus, lui, ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il doit rentrer dans la cellule pour utiliser la machinerie cellulaire. Et donc, de ce fait, c'est un peu des débats philosophiques quasiment, mais donc certaines personnes disent que de ce fait, les virus ne sont pas des êtres vivants, et d'autres disent que si, mais...
C'est un débat important pour la médecine, Éric Combes, ce débat sur le virus est-il ou non un être vivant ou pas ?
Oui, c'est un débat important, mais clairement, effectivement, le virus utilise les capacités de l'hôte pour pouvoir se développer. Et ça a des applications pratiques, hein, c'est-à-dire que par exemple, si un virus tue son hôte, eh ben, il se transmet très difficilement.
Si par exemple, au moment de la grippe espagnole, par exemple, il y a eu 50 millions d'hôtes qui ont été tués.
Oui, mais là, il y a vraiment eu mensonge... Franchement, cette histoire de la grippe espagnole, c'est honteux parce que, bien évidemment, la grippe espagnole est survenue au sortir de la guerre,
de la première guerre mondiale,
dans une population qui était complètement dénutrie, sans antibiotiques, sans réanimation, sans vaccin. Donc, on ne peut pas se baser sur ce qui s'est passé pendant la grippe espagnole pour évaluer ce qui serait susceptible de se passer aujourd'hui avec le même virus même.
Mais c'est vrai que ça, c'est une question.
Je
me permets de rebondir parce que ça, c'est mon cœur de métier, entre guillemets. Mais la question de pourquoi les virus ou les bactéries ou les autres pathogènes tuent leur hôte, c'est une question en fait centrale en biologie de l'évolution quasiment depuis Darwin. Et si vous prenez un virus comme le VIH, il existe des variations entre les infections à VIH. Certaines sont plus virulentes que d'autres. Certains patients porteurs meurent plus vite en l'absence de traitement que d'autres. Et en biologie de l'évolution, ça interpelle. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi finalement le virus n'a pas évolué pour devenir bénin chez l'homme. Parce qu'il commence quand même à avoir eu du temps pour évoluer. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que le virus, évidemment, il fait pas ça de manière consciente, mais il doit arbitrer entre la durée de l'infection. Donc si le virus se réplique énormément, l'hôte va mourir rapidement. Mais le virus doit aussi se transmettre. Donc en fait, le virus doit se transmettre, donc il doit quand même exploiter son hôte. Et on évolue, on pense, vers un sorte d'optimum qui consiste à exploiter l'hôte suffisamment pour se transmettre, mais pas trop, pour que l'infection puisse durer quand même le temps que la transmission ait lieu.
Planète Terre, c'est fini pour aujourd'hui. Éric Combes, Samuel Alizon, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. Les liens vers vos publications sont sur le site web de France Culture à la page Planète Terre. C'était donc « Les nouveaux virus émergents sont-ils un danger pour la santé mondiale ?» Luc-Jean Reynaud, Élise Le, Thierry Montèche, Catherine Madure, Thierry Montèche de France Bleu Héros donc, et la documentation sonore de Radio France nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de l'émission. Émission que vous pouvez écouter à nouveau en ligne pendant 1000 jours et que vous pouvez podcaster durant un an. Vous pouvez également la suivre et la partager sur mes comptes Facebook et Twitter. Merci en tout cas de votre attention et de votre fidélité.
Demain jeudi, à 16h, dans Culture Science, la Marche des Sciences évoquera d'autres maladies liées au travail celle-ci, puisque Aurélie Luneau vous présentera Silicosis, quand des historiens se mettent au chevet des malades.